le système de production de ce film? C'est quoi? C'est 2D, 3D, c'est quoi?
Bah, c'est compliqué, parce qu'en fait, Anka Damian, elle est adepte de du mélange des techniques. C'est-à-dire que elle a une solide formation 2D et elle l'utilise pour notamment créer de la texture. Mais après, elle ajoute énormément d'éléments en 3D pour rendre justement un côté hétéroclite qui est très perturbant et à la fois qui fonctionne parce que c'est une profusion d'éléments et de diversité de traitements qui donne de l'épaisseur, de la profondeur et je pense que pour des personnes qui sont professionnelles effectivement elles vont tout de suite remarquer qu'il y a plusieurs techniques utilisées mais en fait le résultat final pour quelqu'un peut-être de moins habitué à décrypter ce genre d'esthétique, ben en fait ça fonctionne totalement, c'est-à-dire que la cohérence entre les décors qui sont faits plutôt en 2D et les éléments 3D, très déstructurés, ça fonctionne totalement.
Alors, j'ai remarqué aussi que, en ce qui concerne l'animation, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a quand même le festival d'Annecy qui est en train de se dérouler en ce moment. Donc, je pense que, par exemple, Francis Gavel va revenir avec plein de choses à nous dire à ce sujet. Donc, qu'est-ce que tu pense que justement l'animation et ce mélange qu'on voit dans certains films d'animation et de tournage réel, est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose? Est-ce que maintenant les frontières vont un petit peu s'écarter?
Bah, ce que je constate, en tout cas dans le cas d'Anka Damian, c'est que son premier long métrage réellement couronné de succès, ça a été l'extraordinaire voyage de Marona, qui est un très beau film, mais très finalement adressé à un public très familial. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un petit chien qui va changer de maître plusieurs fois dans sa vie. C'est très mignon, c'est très bien fait, et surtout graphiquement c'est très intéressant. Mais il n'y a pas en germe, enfin il y avait pas encore cet engagement politique, la profondeur quand même du sous-texte qu'on retrouve dans ce dernier film. Et donc je pense qu'il y a pas mal d'artistes, et notamment dans l'animation, qui font leurs armes avec d'abord peut-être des films plus commerciaux qui passent davantage auprès des producteurs. Et ensuite, une fois qu'on leur a accordé un certain crédit, avec cette confiance, s'en servent pour aborder les sujets vraiment les plus... ceux qui leur tiennent en fait le plus à cœur.
Il y a une chose aussi que moi j'ai remarqué, c'est que l'animation intervient aussi, pas de plus en plus, j'exagère en disant ça parce que moi j'aime beaucoup ça, mais par exemple dans les génériques. Je pense par exemple à un film qui va sortir prochainement qui s'appelle Yamabuki, et donc il y a ce réalisateur d'animation que j'adore, que tu vas me rappeler son nom.
Sébastien Lodenbach.
Voilà, ouais. Elle lit dans mes pensées. Et donc lui, il a fait justement tout le générique par rapport à des fleurs, et c'est absolument superbe. Et ça, si tu veux, ça, c'est complètement naturel. Dans ce tournage qui est tournage réel.
Mais en fait, on a tout à gagner à faire à nous faire vraiment tomber les frontières entre les genres, parce que l'animation, c'est pas du tout réservé aux enfants. D'ailleurs, on a oublié une grande partie du cinéma d'animation qui était militante à son commencement. On pense que les studios Disney, c'était que des histoires, des contes de fées. Pas du tout. Il y avait un engagement militant très fort tout de suite. Donc, c'est pas du tout une question de technique, en fait. La technique, elle peut raconter absolument tout type d'histoire. Et je crois que dans le cas de Sébastien Lodenbach, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il a réussi, en étant très autonome, sur La jeune fille sans main, c'est-à-dire à faire un long métrage quasiment seul. Bon, pas tout à fait tout seul, mais quasiment. Et en fait, il a prouvé qu'on pouvait raconter des histoires hétérodoxes avec l'animation. Et maintenant, on lui fait beaucoup plus confiance et il travaille très rapidement. Donc, ça permet d'intégrer ça à des films en live action tout à fait facilement.
Donc, n'importe comment, je pense qu'on va, se retrouver sur ce terrain-là parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se préparer. Et puis, bon, il y a le retour du festival d'Annecy. Donc, on va trouver quand même pas mal de choses. Et puis, on s'est dit que finalement, entre les trois émissions auxquelles tu participes, on va pouvoir mettre un peu des ponts, non, entre tout ça.
Ah mais avec grand plaisir, je pense qu'on on s'entre-invitera avec volontiers pour parler cinéma ou engagement politique.
Voilà, alors là, on est un petit peu envahi, mais on va essayer de voir si on peut faire un peu moins de bruit. Alors, ben oui, il est 29, hein, donc... Il est temps de laisser la place. Je vais tout de suite vous donner donc le programme. C'est donc samedi prochain, nous parlerons beaucoup de DVD et nous parlerons justement d'une animation. My Love Affair with Marriage de Signe Baumann, qui est quand même une très belle réussite. Et nous serons en compagnie de Philippe Chevassu. Donc, dans la foulée, nous parlerons de Cria Cuervos, l'un des chefs-d'œuvre de Carlos Saura, de La Belle Verte de Colin Serrault, La Jeune Fille et la Mort de Roman Polanski, Liberame d'Alain Cavalier, trois films de Tomás Gutiérrez Alias, un cinéaste cubain absolument magnifique, La Mort d'un Bureaucrate, Fraise et Chocolat, La Ultima Cena. Donc nous serons avec Philippe de Tamaza, qui évidemment nous en dira plus. Et puis en dernier lieu, je vous rappelle qu'il y a une mobilisation pour Julian Assange. Le comité de soutien Julian Assange organise le 3 juillet prochain à la Maroquinerie, 23 rue Boyer, dans le 20e arrondissement. C'est une soirée de soutien avec la participation des artistes Arthur Hage, Serge Gerroyo, Amazire et Kateb, etc., etc. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien c'est www.lamaroquinerie.fr et c'est le 3 juillet prochain. Voilà, très très bonne semaine et surtout, évidemment, comme d'habitude, tenez bon. Et là, il n'y a pas de générique, mais il y a Nicolas derrière la porte. Je vous envoie quand même un peu de musique.
Je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit, qui aiment la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, je veux m'abandonner au rythme des jours et des nuits dévoilées. J'aime le goût d'écume, la saveur des ombres, la douce amertume des brumes du matin. Reverrai-je encore l'automne, le temps des grandes marées, puis l'hiver où tout frissonne, puis en printemps, puis l'été. Toute saison pour aimer. Au gré de l'amour, peut-on s'abandonner quand on se souvient ce que sera demain? Contre les humains qui sèment dans leur coin, les forêts d'acier fleurissent de barbelés. Sommes-nous si peu de choses, des insectes trop petits? Ne sommes-nous donc plus des hommes pour nous laisser faire ainsi? Est-il encore temps d'aimer? De l'amour, j'aimerais m'abandonner dans un lit de sable par les vagues bordées, sous le grand soleil avant d'être glacé, au bruit des abeilles, vivre le temps d'aimer. Reverrai-je encore les neiges, les feuilles mortes s'envoler? Laissez-moi me prendre au piège du doux plaisir d'exister. Laissez-nous le temps d'aimer. Mais je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit, qui aiment la terre comme un fruit.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Bonjour. Normalement, on ouvre ce magazine sur un palindrome de Gérard Durand. Ben, allez, comme je n'en ai pas en réserve sur le CD parce que ma femme a rangé les disques et comme elle les a bien rangés, je ne les retrouve plus à l'endroit totalement inhabituel dans lequel je les mets. Je vous livre un palindrome de Gérard Durand. Émile Luc Adoré, Céroda, Q Limé. Voilà, Émile Luc Adoré, Céroda Q Limé. Sinon, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand un Suédois de confession catholique devient fou et s'attaque à des enfants, on dit que c'est un fou. Quand un militaire de carrière, un gendarme ou un flic tue sa femme, on dit que c'est un féminicide. Quand un immigré d'origine étrangère s'attaque à des enfants ou tue sa femme, on dit que c'est un immigré d'origine étrangère. Radio Libertaire 89,4 MHz, quelques petits... Je me souviens. Je me souviens que Simone ne ratait jamais au théâtre ce soir, puis plus tard ne rata jamais la dernière séance. Je me souviens que dans la salle des CM1 et CM2, les tables étaient équipées de glissières en métal qui permettaient de fermer les encriers, ce qui n'empêchait pas mon voisin d'y mettre des boulettes de papier buvard et parfois même une craie, initialement blanche. Je me souviens que le roi des papillons s'appelait Pimpa Micaille et s'était coupé le menton en se faisant la barbe. Je me souviens du cigare de Monica Lewinsky. Je me souviens que ma sœur avait remisé son aspirateur pour épargner la couche d'ozone, alors même que le mot « écologie » devait être expliqué dans tout article de journal dans lequel il était utilisé. Je me souviens que Claude rapportait à chaque permission des paquets de cigarettes pour sa mère, vendus à prix bradé par l'armée. Non, pas de paquets de cigarettes pour son père, qui crachait sa silicose depuis 6 ans, devant sa télé en noir et blanc. Je me souviens d'avoir croisé des croumires, des eugmes, des anachorètes, des boulingrins, des scapulaires, au hasard des pages du Robert. Également des sittelles, des panacées et des pénis, mais là, j'avais volontairement cherché le mot. Je me souviens qu'une publicité vantait la possibilité de boire du whisky à gogo au drugstore Publicis sur les Champs-Élysées. Je me souviens que le surgé du CES, le surveillant général, ressemblait vraiment, vraiment à la caricature barbichue et un peu sadique qu'on croisait dans les pages du Grand-Duduche de Cabu. Je me souviens qu'avant d'entrer en cours, le lundi matin, mes élèves de 4e évoquaient les passages les plus dénudés du film érotique diffusé sur M6 le dimanche soir ou de Sexy Clip. Je me souviens que Denis avait rapporté un recueil de textes et poésies libertines chippé chez son oncle. Nous étions restés dubitatifs devant les élans des poètes sur les corps d'albâtre de ces dames, cherchant à comprendre ce qui, en une femme, des plumes d'albatros pouvaient bien les faire bander. Je me souviens que le premier restaurant hamburger près de la gare Saint-Lazare était un Wimpy, en hommage au personnage d'Elsie Chrysler-Segar dans Popeye, puis il y a eu un Free Time avec les publicités avec Christophe Salingros. Je me souviens d'avoir vaguement croisé un homme avec un chapeau étrange. Oui, ça devait être dans le bus, ligne S, je ne sais plus trop, et je crois me souvenir de l'avoir recroisé plus tard devant la gare Saint-Lazare, du moins il lui ressemblait, et il discutait avec un autre qui lui disait de remonter le bouton de son veston. Je me souviens que Frédéric avait eu ses premiers émois sexuels un soir alors qu'il était seul, en regardant un top à Sheila avec Sylvie Vartan, et que plusieurs années plus tard, il s'en voulait encore. Je me souviens que dans le bac à compost où ma mère jetait ses épluchures de pommes et de courges au fond du jardin, on a retrouvé 6 couteaux économes qu'elle avait balancés par erreur avec les restes de légumes. C'était les débuts d'Alzheimer. Je me souviens que Madame Solange disait toujours « Attention, ça repousse pas » à chaque fois qu'une des clientes de sa boucherie laissait tomber une pièce de monnaie sur le sol. Je me souviens que le gardien de square, du square Berthelot, n'avait qu'un seul bras, d'ailleurs, comme presque tous les gardiens de square à l'époque.
Dans l'eau. Pour la vêture d'aller.
Allez, petite ouverture musicale, le temps que les invités se soient installés dans le studio, avec la bise à madame qui interprète Brassens sur l'antenne de Radio Libertaire. Aujourd'hui, pour l'équipe d'animation, dans un respect de parité, nous avons pris une personne n'ayant pas de lunettes, c'est Evelyne, mais sinon, effectivement, non mais sinon à part ça, pour respecter la parité, elles ont invité des mecs, mais... Allez, nos diseuses, nos conteuses, nos théâtreuses.
La parité, j'y pense pas.
Moi non plus. Mais bon. Tu vois, tu n'as pas mis de lunettes, oui. Alors que nous sommes majoritaires.
Mais je les ai, là, les lunettes.
Ah.
Voilà.
Elle ne les porte pas.
Il y a la plus âgée dans le studio, à côté de nous.
C'est qui la plus âgée?
Ben, Mila.
Ah, Mila. Mila. Elle est toute mignonne, Mila.
Ouais.
Bon. Aujourd'hui, alors donc, on est heureux d'avoir comme invité théâtre et musique l'équipe du spectacle Stormy Weather. Alors, je prononce mal, hein, j'ai
Weather. Non, c'est bien pour Weather.
Voilà. Alors, on fait le tour de table. Il y a Sophie Mathieu.
Bonjour à tous.
Et
Anne Delalleux, Théâtre Passion.
Bonjour à tous.
Et voilà, et Evelyne qui vient de temps en temps, quand elle peut, de la Côte d'Azur. Voilà. La Côte d'Azur. Oui, en ce moment, il fait moins lourd qu'à Paris. Hein, parce que franchement... voilà. Alors, hier, j'ai assisté à un très joli spectacle. Hein, grâce à Valérie Gérard, votre attachée de presse, qui m'a invité à venir le découvrir. Je m'aperçois que malheureusement, j'aurais dû le découvrir avant parce que il reste plus que 4 représentations.
C'est ça.
Exactement.
Oh, c'est dommage. Hein.
C'est pas fini pour toujours. Il y aura
d'autres. Bah, j'imagine.
On a déjà beaucoup, beaucoup de demandes de théâtre qui se bousculent au portillon.
Ah ouais, à ce moment-là.
Oui, pour 2024. Donc la représentation devrait renaître de ses cendres, tel le phénix.
Mais on ne peut rien révéler.
Mais on ne peut encore rien révéler parce qu'on n'a pas signé de contrat.
Voilà. Bah oui, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir
achevé
complètement.
Voilà, exactement. Alors, c'est un... moi, j'ai bien aimé ce spectacle. Ah, parce que figurez-vous que dans ma vie précédente, j'ai quelquefois assisté à des répétitions de concerts de jazz.
Ah.
Oui, dans un studio... vous connaissez la rue des petites écuries?
Bien sûr.
Oui.
Voilà.
C'est là où il y a du morning.
Studio bleu.
Voilà. Ouais. Je connaissais. Alors, je ne sais pas si je vous parle de quelques années. Je connaissais un musicien de jazz. C'est du sax qui s'appelait Dominique Subiela. Et une chanteuse, Cynthia McPherson.
Alors, Cynthia, ça me dit un truc, moi, son nom, mais je ne suis pas
sûr. Elle a chanté au New Morning.
Dans la même rue, donc,
juste à côté.
Ouais. Et donc, je pas très très souvent, mais 3-4 fois, même plus, j'ai assisté donc à des répétitions de jazz, et j'avoue que j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que il y a une ambiance particulière, on sent que les musiciens sont plus... c'est vraiment, ce sont des improvisations, hein, ils s'exercent à faire des impros, mais on sent qu'on est au stade de la création, chaque fois. C'est pas à la commande, c'est vraiment, c'est du ressenti.
C'est du laboratoire.
Du laboratoire. Et c'est vraiment... J'avais beaucoup aimé.
Et alors, la question qu'on se pose, nous, tous les trois, j'imagine, les copains, c'est est-ce que vous avez ressenti, quand vous êtes venus voir le spectacle de Stormy Weather, une ambiance assez réaliste et similaire à ce que vous aviez vécu c'est l'invité qui pose des questions à la journaliste. C'est un peu une inversion des rôles. Mais je suis curieux, du coup, je me demande comme
vous avez. Oui, c'est vrai, le retour public, on l'a pas.
On se demande si bien d'avoir est-ce que vous avez senti de la crédibilité dans notre travail de répétition?
Oui, oui, sauf que j'ai senti que vous étiez plus jeune, quelque part. Parce que finalement, au cours de cette répétition, on assiste à des engueulades, hein, et puis à des règlements de compte aussi,
c'est vrai.
Hein, des règlements de compte artistiques, hein, toi tu joues pas bien, toi tu mets pas tout ton cœur, patati, patata, d'ailleurs on écoutera des extraits, parfois c'est violent, hein, c'est vous vrai. Disputez, Et mais en même temps, j'ai cru comprendre ce que racontait celui qui a écrit la pièce, hein,
Thierry Delair.
Ce qu'il veut faire ressentir, c'est que le jazz, les musiciens qui jouent du jazz, quand ils jouent, quelque part, ils subliment aussi beaucoup de leurs sensations, de leur il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit du ressenti. C'est pas de l'appris par cœur, c'est vraiment dans le il y a quelque chose aussi dans l'instant aussi.
Oui, dans l'instant et personnel. C'est
et voilà, c'est ça.
N'importe quel artiste va porter ses propres émotions pour.
Voilà, exactement. Et ça, on le ressent bien dans le spectacle parce qu'en fait, vous êtes là pour une répétition, vous jouez des morceaux et puis tout à coup vous arrêtez et là vous commencez à vous engueuler et puis ainsi, et parfois ça dure assez longtemps, les petites engueulades ou les petits conflits là, égotistes comme on dit, et des égaux là, enfin je sais plus, hein, ça, l'histoire de l'un, il est en bisbis avec sa, alors on va faire moderne, sa meuf.
Je sais pas si c'est moderne, c'est peut-être un peu ringard, mais
c'est
déjà dépassé, j'ai l'impression.
Moi j'ai 45 ans, je dis meuf, donc ma fille elle a 8 ans et je pense qu'elle.
Et donc, parce que elle en a marre, les répétitions, le jazz, sa femme, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Claire.
Elle en a vraiment ras-le-bol.
Ouais.
Et elle joue dans l'appartement justement de Claire
et
du contrebassiste. Elle en a assez. Mais c'est rigolo, hein. Bon, il lui répond au téléphone, elle dit que il faut qu'il arrête. Il y a
une saturation.
Ils ont l'opportunité d'aller jouer à Montreux. Alors c'est formidable d'aller jouer à Montreux. Et puis ça va pas parce que Monsieur le contrebassiste, sa femme ne veut pas, ou sa femme menace de pas partir en vacances avec lui. Enfin bref, il y a des histoires comme ça. Et donc on se rend compte combien c'est difficile de tenir comme ça un petit groupe. Qui veut enregistrer un disque, qui veut partir pour un festival. Il y a tous les à côté, financiers, matériels, sentimentaux, il y a tout ça qui se greffe. Et donc, c'est ce qu'a voulu raconter l'auteur. Et en même temps, finalement, malgré tout, c'est quand même. Alors, ils se disputent de fou, hein. Et finalement, c'est quand même le jazz qui l'emporte. Quand ils se remettent à jouer, ils oublient tous les problèmes et ils s'y mettent à fond, quoi. C'est sympa quand même.
Quand le jazz est là, la java
ça résume bien. Merci Jean-Baptiste, ça résume bien le propos. Oui, non, mais c'est vous avez raison. En fait, bon, sans spoiler toute l'histoire, ce qu'a voulu, j'ai l'impression, vous le dites les gars, hein, si je.
Vas-y.
Surveillez de très près parce que je dis n'importe quoi des fois. En plus, je suis
content de ton petit solo.
donc, ce qu'a voulu exprimer Thierry Delair dans l'écriture de cette pièce, c'est la course d'obstacles que c'est pour un groupe d'accéder au Graal du succès, quoi. Et là il y a cette opportunité là et on se rend compte que malgré le fait qu'ils ont l'opportunité, il y a encore des obstacles qui sont la vie perso du contrebassiste qui est en embrouille avec sa femme. Et qui sa femme sature de jazz, etc., parce qu'en plus ça tombe une date particulière pour leur couple, etc. Les rivalités entre deux personnalités assez antagonistes, le saxophoniste que j'interprète moi, qui est assez pardon du terme, mais qui a un bon petit côté branleur, qui passe ses nuits dans les clubs de jazz à picoler et à draguer des filles qui ont la moitié de son âge.
Oui, alors c'est le méchant, quoi.
Non, c'est pas si mal. Non, ce personnage est beaucoup plus complexe que ça, j'ai l'impression. Il est plein de gentillesse et ça se retrouve dans la musique d'ailleurs, parce qu'il y a des moments de réconciliation, comme vous l'avez souligné, qui se font par la musique.
Par la musique,
à un moment donné,
sûr.
On est au summum de l'embrouille, et puis le pianiste, donc le dernier personnage qui lui est beaucoup plus
qui a
un côté
rien,
plus académique, sérieux, c'est le prof de conservatoire. Il contient
rien,
énormément
ouais.
sur sa colère, ses émotions, il refoule énormément, il a une psychologie comme ça qui est très contenue et qui est en même temps très colérique et qui a quand même quelque chose
un peu violent
au fond, ouais. Voilà, qui est mal
à un moment donné je me suis demandé mais la contrebasse ça va se casser.
Exact. D'ailleurs elle s'est cassée.
Oh merde.
Et c'est pas la seule.
On en est à une contrebasse par semaine.
On en est à peu près à ça. Et,
oh là là.
Et un saxophone soprano qui a été réparé.
Oui, je suis allé cette semaine.
Non, mais voilà, j'avais fini. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné, il y a cette course d'obstacles. Sans spoiler la fin, on ne sait pas. Il y a une sorte d'interrogation. Mais en tout cas, c'est ça. L'intérêt n'est pas de savoir comment va se dérouler la suite de l'histoire, mais surtout qu'on observe cette course d'obstacles pour un groupe. D'aboutir au
quelque part, c'est peut-être que cette course d'obstacles, c'est l'allumette qui permet un peu de toujours rester sur le, comment dire, sur le ring. Enfin, je veux dire, on est toujours aux aguets. Enfin, toujours, ouais. Il faut toujours être là, quoi, quelque
ouais.
part.
Y a pas,
on peut pas lâcher prise.
Faut rien lâcher. Ça, c'est quelque chose qui est vrai dans beaucoup de situations, dans beaucoup de domaines artistiques. Le jazz, moi je connais mieux le milieu de la musique et du jazz, mais mes compatriotes sont beaucoup plus comédiens et connaissent aussi mieux.
Compatriotes.
Mais co-comédiens, je ne sais pas comment on dit.
Mais collègues.
Mes amis, même depuis quelques temps, j'ose le dire.
Ouais.
Mais voilà, peuvent en témoigner dans le domaine aussi de l'acting, enfin du métier de comédien, voilà. Donc c'est toujours un, faut rien lâcher, ouais.
Alors on va écouter quelques extraits, ils sont très courts, hein. Alors je me demande si on pourrait, sauf le final, on pourrait presque les passer tous à la suite parce qu'ils sont, c'est 1 minute 15, vraiment ils sont courts, hein. Tu vois, Nicolas, le final on passera à la fin.
D'accord.
Ouais. L'étoile clavier qui est dégueulasse, mademoiselle Ella joue en bouffant des confiseries et ça colle.
Et pour une fois, tu fais simple.
Visiblement, on n'est pas dedans. Et je dis ça, c'est pas uniquement pour toi.
Alors, comme on n'est pas très nombreux dans cette pièce et que je connais ton sens limité de l'autocritique, j'en déduis que cette remarque est pour moi.
Oui, je trouve que tu proposes rien. Si c'est pour faire un énième enregistrement de Flammy to the Moon, franchement, ça n'a aucun intérêt.
Mais t'as tout à fait raison, Rémi, je ne suis pas dedans. Mais parce que j'ai pas le feeling pour rentrer dedans. On va pas accabler Laurent dans son état. Non, toi, tu déroules le tapis, tu soutiens le groupe. Non, franchement, moi, c'est ton jeu qui me pose problème.
Alors vous, en tant que... Bah parce que vous êtes à la fois, vous avez deux casquettes, comme on dit, comédien et...
Non, il n'en a qu'une, lui.
Ouais. Une seule casquette. Oh là là. Oui, mais là, dans la pièce, vous avez deux casquettes.
Dans la pièce, on a deux casquettes.
Non, mais c'est une blague que ne peuvent pas comprendre les auditeurs, parce que Renaud est venu avec une casquette. C'est pour ça, c'est pour ça que... Sinon, c'est d'accord. Pas vrai, si on ne voit pas le...
Il n'y a pas l'image.
Il y a une webcam ici.
Non, il n'y a pas de...
En tout cas, dans le spectacle, vous avez deux casquettes. Voilà, enfin, deux casquettes.
Deux chacun, ça fait 6 en tout.
Vous avez un problème avec les casquettes?
Moi, j'en ai 3.
Mais... Monsieur Artigas, je crois que je vous ai vu dans un spectacle sur Francis Blanche.
Ah, ça y est, la star. Je me doutais que nous y viendrions.
Mais oui,
Evelyne, bien sûr.
Vous allez remettre ça
On remet le couvert au prochain Festival d'Avignon, c'est-à-dire dans un mois, moins d'un mois, puisque ça commence dans 2-3 semaines.
Mais j'ai rencontré votre collègue, là, je ne sais plus comment il s'appelle.
Guillaume,
ouais, d'Estrême.
Ben oui, on reprend ça, on reprend le tube Nuit Blanche chez Francis, on va jouer au Festival Avignon à l'Essaillon à 22h15 cet été,
ouais.
Théâtre Essaillon, Place des Carmes là-bas, et voilà, c'est donc un spectacle qu'on avait créé en 2007.
Ça commence à je l'ai déjà vu trois fois ce spectacle.
Toi tu l'as vu, ouais, le théâtre Mouffetard, où on a eu la surprise aussi de voir, je crois que voilà, de voir Jean-Marie Blanche,
oui, voilà. J'espère qu'il nous écoute.
Voilà,
ouais.
Que je salue.
Ouais.
Et puis on était voisins aussi pendant quelques temps, parisiens.
Ah bon?
Ouais.
Où ça?
J'habitais rue de la Jonquière, moi.
Ah oui, nous on était rue des Épinettes. Ouais, ouais.
Exactement.
D'accord.
Et donc on se croisait, enfin c'était souvent.
Il y avait un petit café là, pas loin, ouais, je me rappelle.
Pas qu'un.
Il y en avait plusieurs.
C'est l'avantage de Paris.
Il y a deux ou trois cafés, oui.
Il y a toujours un café pas loin, une boulangerie. Voilà. Il faut dire d'autres choses sur Francis Blanche ou pas?
Non, parce qu'on n'est pas venu pour
voilà,
ça.
Voilà, c'est
mais...
ça, c'est ça. Parce que
sinon... Voilà, donc. Comédien
et pianiste
ouais. Voilà. En fait, pour vous, on va quand même parler du spectacle. Hein. Je ne sais pas exactement comment vous faites, si vous êtes plus comédien que musicien. C'est variable.
Moi, c'est 83% musicien et 17% comédien.
Ah, d'accord. Ah, ouais. 100% musicien.
C'est gentil.
Il ne prend pas du tout mal.
Je pensais ce que vous voulez.
Et 50-50.
Ah ben, pourquoi pas 100% chacun.
Pour 100% les deux. Ouais.
Ben, je ne sais pas, en fait, ça, c'est vrai que l'équipe n'a pas été simple à constituer. Voilà, on va dire ça comme ça.
Mm-hmm.
Pour trois raisons.
Ouais.
Parce que c'est une pièce de théâtre, donc... Il faut des acteurs pour jouer les
personnages. Je trouve que même si vous êtes 100% musicien, vous jouez
pas
bien.
Pas du tout. Je vous laisse parler.
Bon, d'accord.
Mais ça me fait plaisir de l'entendre quand même.
Deuxième chose, il fallait aussi des musiciens qui jouent des instruments en particulier. Le sax, la batterie... non, justement, pas la batterie, le piano. La contrebasse. Et troisième chose, des gens qui jouent du jazz.
Eh oui.
Parce que c'est très particulier.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc, il fallait réunir les trois conditions. Et donc, le plus dur, ça a été, je pense, de constituer l'équipe. Donc, voilà. Ça, c'était un challenge. Après, se revendiquer... l'un ou l'autre, ça
c'est presque un choix personnel.
Oui, moi je me revendique comédien, mais grâce au piano, j'ai fait énormément de spectacles de théâtre, des spectacles musicaux, dont Nuit Blanche chez Francis, voilà. Mais par contre, c'est la première fois, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce projet, c'est quand j'ai lu la pièce et puis passé audition et puis été pris et choisi, c'est que et après rencontrer Renaud et puis Benjamin dans cet ordre-là. C'était que ça traitait du jazz et qu'on allait jouer du jazz sur scène. Et je trouvais ça super.
Oui, parce que réellement, on a l'impression que vous éclatez quand vous jouez.
Oui,
ah, c'est ça. Hein.
Alors, ça n'est qu'une impression.
Oui,
c'est parce que nous sommes de très très bons comédiens.
D'accord.
J'insiste sur ce phrase.
Non, mais ça se sent. Hein,
toi, je te trouve très très bon à 17% comme comédien.
T'as des très bons.
Par contre, comme saxophoniste.
Et alors, petite question. Quand vous jouez. C'est l'impro, c'est pas forcément la même chose chaque soir, comment ça se passe ?
Alors, oui, comme le jazz, c'est une musique beaucoup basée sur l'improvisation, donc on a quand même des codes. Bon, déjà, on a nos oreilles, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans cette musique-là la plupart du temps, c'est que l'improvisation, elle est plus collective.
Ouais.
Donc, c'est ce qui s'est toujours passé dans l'histoire du jazz. Il y a toujours eu ces interactions. Je pense, là, j'ai en tête le quintet de Miles Davis avec Hancock, tel accord joué par Hancock, Miles joue telle note, etc. Et il y a des rendez-vous comme ça, mais basés sur le fait que le soliste, par exemple, va entendre l'accord joué par le pianiste, qui n'était pas forcément celui prévu par la composition elle-même, et va s'amuser avec en le ressaisissant parce qu'il comprend de manière auditive quel mode harmonique a été amené, et il va jouer dessus, et c'est ce qui fait un peu le génie, comme ça, quand il y a une forme d'osmose collective. Alors, très humblement, nous trois, on a mis en place des morceaux qui sont... dans le déroulement de la pièce, le tout premier notamment est prévu comme dans le scénario, comme totalement improvisé. Évidemment, on a déjà tellement fait ce morceau-là qu'il y a un peu des automatismes qui retombent entre nous.
Oui.
Et puis sinon, il y a des chansons, réellement, le choix de chansons. Le travail du début de la pièce, c'est sur Fly Me to the Moon. Donc on prend un très, très, très standard, standard très, très connu. Et on essaie de se l'approprier de manière personnelle en faisant un arrangement qui n'a pas été joué jusque-là.
Oui, d'accord.
Donc on se donne des idées, on communique là-dessus. Donc il y a la pièce, c'est quand on parlait du travail de laboratoire tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on voit des musiciens qui arrivent, notamment le pianiste qui a tendance, donc Jean-Baptiste Artigas, qui a tendance à beaucoup préparer les séances, comme le vrai personnage académique qu'il incarne, est arrivé avec une intro qu'il a déjà pensée en proposant des choses et tout.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et nous le soumet. Est-ce que vous voulez?
Il est plus rigide, hein, c'est ça. Un peu.
Oui, il a un petit côté rigide.
Il a la quête des petites frontières, tandis que l'autre. Le saxophoniste, lui, il veut plus se ruer dans les brancards. Hein. C'est, il veut bouger.
Il a un côté provocateur, ça s'est passé indéniable. Il a un côté, il y a de l'ego, mais chez les deux, il y a de l'ego. Hein. C'est chez le pianiste et chez le saxophoniste qu'il y a le plus d'ego, parce que finalement, le contrebassiste, assez fidèle aux personnalités de contrebassiste que j'ai rencontré moi dans le milieu de la musique, il y a une forme d'humilité parce que c'est un instrument qui est pas
qui est énorme déjà,
mais surtout qui est pas en avant-scène, qui est un instrument de soutien qui va jouer la ligne
harmonique.
C'est
beau, moi j'adore la contrebasse.
Ça fait aucun doute.
On remarque
chez les musiciens des personnalités, chez les solistes il y a une envie de se
mettre, c'est incroyable.
Le soliste aura envie de se mettre en avant.
Regardez, il n'arrête pas de parler.
C'est vrai.
Et c'est vrai que le compte. Du coup, je prends la parole.
Non, attends, j'avais pas fini. Et donc.
Non, mais c'est pour aller dans ton sens. Ouais. C'est vrai que le rôle du contrebassiste dans la musique, c'est un lien en fait. Il est là entre la rythmique et la mélodie ou l'harmonie, entre ce qui est harmonique et rythmique.
Oui, il est dans l'écoute des autres et il recouvre un petit peu le.
Et donc ça se retrouve dans la psychologie des personnages, parce que moi mon personnage est toujours assis en train de recoller les morceaux entre sa femme, ses copains, son groupe,
donc moins d'ego mais plus de
plus de lien,
plus de flexibilité,
on peut compter sur le contrebassiste,
c'est assez réaliste, ça
c'est assez réaliste, je pense que c'est une vraie
tandis que les deux autres on sait pas. C'est une histoire de couple entre le pianiste et le saxophoniste, on ne sait pas.
Alors, donc,
non, il faut préciser là, Evelina, parce que ça prête à confusion.
Les gens se posent la question. Moi, il y avait des histoires de rivalité face à une chanteuse.
Oui, qui chante bien d'ailleurs.
Qui chante très bien.
Ouais, elle n'est pas sur scène. Mais
alors, elle n'est pas sur scène.
Elle était dans la salle hier soir.
Et on peut peut-être la citer, elle s'appelle...
Oui, il faut la citer, oui.
Tanzi.
Tanzi.
Tansy. Voilà, c'est une chanteuse irlandaise qui nous a fait l'honneur de faire cet enregistrement qu'on utilise sur scène. Donc on la remercie. Voilà.
D'accord. Vous avez fait une bande-annonce aussi pour le spectacle. Je n'ai pas écouté, hein, excusez-moi. Elle est bien, la bande-annonce
Alors, la bande-annonce.
Alors là, on est pas au courant.
On n'est pas au courant.
Ah, vous n'êtes même pas au courant, nous. Vous avez une bande-annonce pour le spectacle
Oui, c'est une publicité sur une radio concurrente. C'est une publicité, c'est ça dont on parle.
Mais non.
Non,
c'est pas. C'est ça. La bande-annonce du spectacle. Vous n'avez pas une bande-annonce sur le théâtre Essaillon?
Si, c'est vrai qu'il y a un lien avec un lien.
C'est quoi cette
vidéo?
Peut-être. Oui,
il y a quelque chose, oui.
Vous savez, on a fait tellement de promotions qu'on ne sait plus, parce qu'on a fait des télés, des radios.
Mais oui, mais c'est sur le théâtre Essaillon même.
Ah
oui,
sur le site de l'Essaillon. Ah oui,
c'est peut-être YouTube.
Oui.
Ah oui, vous avez sûrement raison.
On ne va pas sur le.
Vous n'allez pas sur le site,
Non. Non, parce qu'on ne va pas réserver des places pour notre propre spectacle.
Non, mais. Non.
Ah si, moi je le fais depuis le début. Je le fais depuis le début. Pour aller...
Moi je vais monter la jauge.
Non, mais vous pourriez regarder comment votre spectacle est présenté.
Vous avez raison,
c'est vrai.
Bon. Sauf que notre attaché de presse travaille en ce moment.
Oui, les extraits, c'est pour ça elle m'a envoyé des extraits, je suppose que c'est vous qui les avez choisis. Ouais. Effectivement, j'ai pas écouté la bande-annonce parce que je me suis fiée aux extraits que vous m'avez envoyés. Voilà.
On peut faire un test en temps réel de la bande-annonce, ils vont voir si ça tombe, ils se reconnaîtront pas. Et ils vont protester, hein.
Il y a d'autres comédiens sur la fin.
Rémi, je veux pas être méchant. Si, je vais être méchant. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si quand tu joues du Rémi Aubert. Est-ce qu'un amateur de jazz qui t'entend jouer se dit « Tiens, c'est Rémi Aubert qui est au piano ». Tu bosses depuis des années, tu connais par cœur tous tes maîtres, Monk, Hancock, Ellington. Mais est-ce que ta puissance créatrice t'a permis de t'affranchir de leur pouvoir d'attraction, de tracer ta propre route, trouver ton propre son? Non! Ce sont des géants, ce sont des planètes! Mais toi, t'es tout petit, Rémi, à graviter, en orbite, autour d'eux. T'es comme un Spoutnik qui essaie de faire un peu mieux que Bip Bip.
Bon, ok, on n'a plus rien à se dire. Non.
Je vois que ça fait rire des gens dans la salle.
Mais ça, c'est vrai que ça
se moque de moi.
Non, mais il trouve que ma comparaison avec le Spoutnik est drôle.
Oui. D'ailleurs, je voulais dire aussi, parce que on a l'impression que c'est chiant, notre spectacle.
Quand
on peut s'engueuler... Mais c'est drôle quand même.
Non, c'est très drôle. Franchement, c'est très drôle. Ah. Et puis.
Mais ça peut être drôle des gens qui s'engueulent d'ailleurs.
Mila, 8 ans, voilà. Mila spectatrice petit. Privilégiée au premier rang d'un samedi soir.
T'as bien rigolé, Mila. Ouais, elle dit oui de la tête.
Okay. C'est un spectacle familial. Moi, j'ai pas mal de gens qui sont venus avec des enfants jeunes. Mmh. Mila, peut-être la plus jeune qui est venue jusqu'alors. Ouais. Mais 10 ans, 11 ans, 12 ans, et voilà. Il s'éclate. C'est parce que voilà, c'est quand même très vivant. Et puis il y a un côté aussi, je l'espère. Bah, moi, en fait, la nouveauté aussi, pour avoir eu la chance de jouer dans pas mal de spectacles et de choses très, très, très différentes, c'est purement du théâtre, des spectacles musicaux, c'est que. Il y a une dimension aussi dans cette salle qui nous plonge dans une espèce de réalisme, et je trouve ça assez intéressant. Il y a un côté un peu documentaire.
On est dans les coulisses d'un studio. Enfin, c'est pas un studio, c'est un appartement.
C'est un appartement, on répète.
Mais ça fait rien, ça fait office de studio. On est dans les coulisses de ce que finalement. On a rarement l'occasion d'écouter. C'est une répétition de concerts de jazz.
Tout à fait. Et tout l'aspect technique, tous les sujets abordés quand on fait des propositions d'idées musicales, etc., tout est. Comme nous sommes vraiment musiciens, tous les trois, tout est crédible. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, quand on parle de faire une progression d'accords mineurs dans l'intro du morceau, une descente d'accord par ton, etc. Tout est vrai. Je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas du texte.
De toute façon, vous comprenez. Oui, moi, personnellement, je ne comprends pas.
Voilà. C'est-à-dire que chacun comprend ce qu'il peut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont musiciens, amateurs.
Moi, je
ne
suis pas musicienne.
Oui, bien sûr. Mais en tout cas, il y a ce souci-là de réalisme, en tout cas.
Tout à fait. Je sais que c'est vrai. Alors, ceux qui sont musiciens. Ça doit les intéresser aussi.
Bien sûr.
Vous avez beaucoup de musiciens qui sont venus voir le spectacle.
On ne sait pas trop. En fait, on ne connaît
pas. Je crois pas, hein.
Non, en fait, si on connaît.
Tanzi hier avec Claire.
Ouais, Tanzi et Claire. Ouais, et
qui sont venus, sont
deux jeunes pianistes et chanteuses, ouais. Il y a le saxophoniste
Virgile.
Il y en a eu un petit peu, mais sinon, c'est plutôt des amateurs de théâtre qui viennent voir cette pièce.
Ouais. Oui, les musiciens, ils s'éclatent aussi parce que, enfin, moi, hier, les filles, elles étaient très. Elles disaient exactement. C'est exactement ça.
C'est ça le truc. C'est assez réaliste, quoi. Ouais. C'est vraiment ce qu'on vit.
On parle parfois aussi de complètement autre chose que de musique. Et
on perd du temps comme on perd du temps en répétition.
Ah oui, il y a une scène. Oui, alors ils se plaignent parce qu'il y en a un, il mange des chips au-dessus du piano. Et enfin, bref, c'est dégoûtant. Enfin, c'est pas très propre.
Non, vous avez raison.
On voit des choses horribles. Hein,
alors, les spaghettis. Alors là, par contre, les spaghettis, j'ai pas aimé. Hein.
Alors, ce sont des lasagnes.
Lasagnes. Ouais. À un moment donné, il y en a un qui va chercher les spaghettis dans le four micro-ondes. Les
lasagnes, lasagnes.
Oui, parce que ils font une
lasagne spaghetti, on va dire. Ouais. Okay.
Ils font une pause, hein, une pause dîner. Mais le problème, c'est que moi, j'étais devant et je sentais les lasagnes et
c'est ça. Bien, c'est immersif.
Evelyne, c'est un spectacle olfactif.
C'est un spectacle qui fait intervenir tous les sens.
Enfin,
presque.
T'as même pas tous. Eu la peur, alors.
Ah non, ça me dit rien.
C'est immersif. Faut pas venir en ayant trop mangé avant.
Ouais, c'est ça.
Parce que du coup, ça
j'avais l'assiette de lasagne juste à côté.
Imaginez, comme il y a une proximité avec le public, on en profite, on ne se lave pas pendant plusieurs jours, que les gens profitent aussi de nos odeurs.
Attendez, parce qu'il reste encore 4 représentations, il faudrait que les gens viennent voir un peu la pièce quand même.
Enfin, c'est assez drôle l'épisode des lasagnes, oui, effectivement.
Et que devient le plat de lasagne après? Parce que je me souviens d'amis qui avaient la pièce à Madeleine
Proust. On est très green, on fait très attention à éviter les gaspillages. En général, c'est moi qui suis un peu responsable de cette partie-là, de l'installation. Donc notamment la préparation
de
je fais qu'une demi-portion du plat de lasagne à chaque représentation que je coupe encore en deux pour la partager entre les deux personnages.
Ouais.
Et le temps de délivrer notre texte à ce moment-là cette partie-là de la pièce, on a presque terminé les derniers petits bouts de lasagne je vais pas spoiler la scène, mais il y a très peu de gâchis.
Non, il n'y a pas de gâchis, mais c'est pas extrême.
C'est pas très important.
Non, c'est pas très important, mais c'est rigolo.
Bon. Mais c'est voilà.
C'est rigolo.
Mais parce que vous posiez la question, donc.
De toute façon, je pense que vous les jetez après.
On jette très peu. En fait, on fait presque terminer le.
On finit les chips, les bonbons, l'eau, même
en général,
l'eau.
C'est moi qui après.
Et ce qu'il y a dans la bouteille là, soi-disant que c'est du whisky, c'est du sirop, non?
Non, c'est du whisky. C'est pour ça que ça me rend.
Regardez cette authenticité.
Voilà, on voulait que ce soit réaliste, ce qui fait que j'ai beaucoup. Comme c'est moi qui passe la
totalité de la pièce.
Oui, c'est même qu'on est en train de boire là, Evelyne.
Voilà, écoutez d'ailleurs. Il y en a presque plus.
Mais il est rose. Vous avez déjà vu le whisky rose?
Et du coup, ça rend le challenge encore plus difficile pour un comédien un peu débutant comme moi de délivrer la fin du texte, la fin de la pièce quand j'ai beaucoup bu. Non, en fait, il s'agit de thé glacé. Je dis ça parce que ma fille est en train d'écouter. Et qu'elle va se dire, mais mon papa, il boit vraiment beaucoup alors. Non, c'est du thé glacé. Voilà. Mais ça fait office de whisky.
Comme extrait, moi j'ai du sopalin. C'est quoi cette histoire?
Alors, il y a du sopalin parce que. Non, alors en fait, c'est du.
C'est
torchon.
Devenu un torchon.
Ça s'appelle le groupe du sopalin, mais c'était un torchon.
C'est devenu un torchon. Bah, en fait, on a entendu l'extrait c'est le tout premier extrait que vous
musical,
avez musical. Donc en fait l'histoire c'est que Rémi, donc avec l'histoire des chips etc, trouve le piano collant. On est chez Laurent est le contrebassiste et en fait c'est le piano de sa fille. Donc Rémi, mon personnage du pianiste, profite du piano de sa fille pour jouer, hop, et il se trouve le piano collant. Donc il va chercher un truc pour nettoyer, et en nettoyant il y a le premier moment musical qui se crée entre les trois à partir d'une improvisation. Donc vraiment, comme disait Benjamin tout à l'heure, c'est en partie défini, c'est à dire que on s'est donné une tonalité, voilà, mais après, et une espèce de mood, d'atmosphère rythmique et musicale. Mais après, tous les soirs,
C'est ce qu'il y a de plus improvisé. Ça. C'est vraiment c'est le morceau totalement improvisé qui n'est basé sur aucun standard. Renaud, tu as quand même une espèce de ligne de basse un tempo plus ou moins prédéfini en tête. Une tonalité, un tempo, puis pas plus. Et d'ailleurs, on n'arrête pas d'en discuter. Par exemple, hier soir, Jean-Baptiste, ou c'était avant-hier, je ne sais plus, tu es venu me dire tiens, il faudrait peut-être qu'on amène plus, qu'on pose un peu plus le truc au départ. Enfin, on n'arrête pas de se remettre en question comme ça, parce que c'est tellement improvisé que ça part un peu dans plein de directions différentes.
Ouais, et puis on commence même au niveau des textes à trouver de nouvelles choses.
Il
mériterait vraiment ce spectacle.
C'est un spectacle qui est vraiment très vivant. Je vous ai vu sur scène et je vous vois là. J'ai l'impression que je suis encore au théâtre. Mais vous, alors, quand vous avez fait des répétitions de jazz.
Oui.
On a mêlé les répétitions ensemble. On a fait les répétitions du texte et aussi de musique.
Ça vous est arrivé de vous engueuler comme ça dans la réalité?
Le plus gros travail, ça a été vraiment le texte. Hein. Mm. Parce que la musique, on faisait déjà, en fait. Mm. On est déjà musiciens à certains pourcentages, mais on est des musiciens.
Ça peut arriver, mais est-ce que c'est une fiction ou... Il y a quelques éléments biographiques, certainement.
En fait, c'est pas notre...
Tu veux dire, dans nos parcours respectifs?
Oui, c'est vous. Vous avez eu l'occasion de vous engueuler comme ça dans...
Alors, moi, je ne connais pas assez, je crois.
Dans mon expérience de musicien, jamais à ce niveau-là, non. Et parce que j'évolue vraiment comme mes collègues, mais j'évolue dans un milieu très professionnel de musiciens et on a tous une forme d'éducation professionnelle.
Donc ça se passe pas exactement
Ça se passe jamais à ce niveau-là.
Non, là c'est un peu grossi pour.
Je sais pas en fait. Je pense que c'est comme les groupes de musiciens qui se connaissent depuis le collège. Ça sera un peu ça l'idée. Mmh. C'est-à-dire qu'on se connaît tellement que on arrive à la quarantaine, c'est un peu l'heure du bilan, un peu sur des
je les ai trouvés jeunes, quoi. Ouais. Un peu jeunes dans leur...
Mais ça peut se passer comme ça dans
leur âge, en maturité, oui.
Nous, on a l'âge des personnages et 15 ans de... C'est ce qui est dit dans le texte, 15 ans de... C'est ça, hein. C'est 15 ans de
compagnonnage.
Ensemble. La musique ensemble. C'est tout à fait. C'est tout à fait crédible.
Ouais, c'est comme dans
la famille. Plus on se connaît, plus on se déteste. Entre guillemets.
Parce qu'on accumule. On accumule un passif. En 15 ans d'amitié et de collaboration musicale, il peut s'être déroulé petit à petit des espèces de petites tensions.
Petites rancœurs.
Et comme on a de la mémoire, ces choses-là s'additionnent.
Oui, puis avec l'alcool aussi.
C'est marrant parce que je viens de penser que une anecdote en fait à laquelle je pense, c'est que et à laquelle je n'avais jamais pensé, qui répond à d'autres questions qui ont été posées précédemment, c'est que donc moi j'ai une formation musicale et puis formation d'acteur, j'ai fait les deux en même temps et à l'époque j'avais un groupe qui marchait très bien. Et dans lequel, pour moi, j'étais investi. Puis et on s'est réunis, on a fait un enregistrement, justement. Donc, c'est un peu l'objet de Stormy Weather, de la pièce. Ils se réunissent pour préparer l'enregistrement et ils répètent pour répartir. Et on a enregistré un disque et le groupe a splitté suite à l'enregistrement du disque. C'est-à-dire qu'on s'est séparés, on était cinq. Et ça, c'est consécutivement à ça, il y a plein de choses qui sont ressorties et on s'est séparés. Et moi, j'étais tellement écœuré, j'ai dit j'arrête la musique, enfin j'arrête la perspective de ne faire que le musicien et je vais faire parce qu'en même temps on me disait il faut que tu fasses du théâtre, etc. Il faut que tu fasses ton parcours de comédien. Et je me suis vraiment lancé dans le théâtre. Et dans le théâtre, quand on savait que j'étais pianiste, on m'a dit, mais attends, et alors ça serait bien, on va faire le personnage, il est pianiste, ou alors tu vas jouer du piano, on va faire un spectacle musical, tu vas accompagner, on va faire un cabaret, voilà. Donc il y a eu toujours le... Et à force, les gens me voyaient jouer du piano, donc on m'a proposé des trucs où je faisais les deux, voilà. Mais bref, pour dire que oui, ça arrive. M'est arrivé, ça a changé ma vie, en fait.
Carrément, ouais. Ouais. Mais alors, donc, est-ce que... Moi, je ne connais pas le milieu des musiciens de jazz, parce que là, on est en musicien de jazz. Est-ce que, justement, ça arrive, vous avez entendu dire, de groupes qui se séparent
Alors, je n'ai pas entendu d'anecdote où la contrebasse sert de rempart à l'affrontement physique de deux des musiciens.
Oui, non, mais ça, c'est pour faire rire, ça.
Je pense qu'il y a de l'exagération, mais... En fait, c'est bon, c'est pas parce que c'est pas arrivé dans mon parcours personnel que oui, dans des. Et je pense que pour que ça arrive, il faut qu'il y ait effectivement un historique important.
Ah d'accord.
Donc il faut avoir joué avec les mêmes musiciens pendant très très longtemps.
Moi j'ai vécu des trucs comme ça, des séparations.
Ah ouais. Oui, ouais.
Mais ça en venait pas aux mains. La plupart du temps, moi ce que j'ai. Enfin moi.
Oui, non, mais là, c'est des gens qui s'en viennent aux mains. Même que ça en vienne aux mains, ça reste mignon, quoi. C'est pas. Enfin. C'est spectaculaire,
oui, oui.
Mais on sent bien que c'est un peu du jeu, quoi.
Enfin, oui, dire, en tout cas, ce que j'ai entendu dire, c'est des claquements de porte où bon, bah, je quitte le projet. Ça, c'est sûr, je quitte le projet,
ouais,
c'est quelque chose
ouais,
qui est arrivé.
Et il y a beaucoup d'égo chez les musiciens. Enfin, je sais pas, moi.
Ah, pas du tout. Alors là, vraiment.
Non.
Alors surtout chez les saxophones, les chanteuses. Non, il y a vraiment des gens très enfermés, très discrets.
De quoi?
Oui, bien sûr, mais il y a de l'égo, vous savez, il faut. Il faut qu'on joue au Lego. Non, il faut qu'on ait de Lego, c'est indispensable. Parce que c'est une épreuve de se mettre en scène en tant que comédien, en tant que musicien, à tous les niveaux, de monter, oser monter devant un groupe de gens supérieurs en nombre.
Ouais.
C'est quand même ça le principe, hein, c'est qu'on est 2, 3, 4, 5 sur scène et qu'en face de nous, on a 30, 40, 100, 2000, 10 000 personnes.
Ouais, quelque part, il faut être gonflé, quoi.
Il faut c'est-à-dire que sans ego, on se dit, mais j'ai rien à faire là. Je prends un petit exemple, un petit peu égocentré.
Oui.
Vous m'en voudrez pas, Evelyne.
Ça changera pas. Tu
ça ne changera pas. Demain dimanche, je vais jouer en duo avec un pianiste devant 10 000 personnes, place du Trocadéro.
Ouais, voilà.
Oh
non, mais c'est pas
mais
pour.
Alors, bravo.
Non, c'est pas pour ça.
Et si on n'a pas, si le théâtre n'est pas plein,
non, mais c'est
la
pas
semaine
pour...
prochaine pour les années dernières.
J'aurais jamais
dit. Tu vas jouer devant 10 000 personnes.
C'est juste pour vous dire que sans ego. Non, mais comment soutenir une telle position? Pour les 75 ans de l'Israël. Les 75 ans d'Israël, il y a une demain. Bon, bref, c'est pas très important.
C'est pas pour la fête des pères. Alors.
C'est pas pour la. Il y a la fête des pères demain. Non.
Ah oui.
Demain,
ah, oui.
Bah, vous faites bien de me le dire parce que.
Mila,
il faut que tu me fasses. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Bon, c'est un événement. Bon, il y aura Enrico Macias, il y aura plusieurs. Bon, c'est un événement, mais.
Mais vous n'êtes pas tout seul quand même.
Non, je vais être en duo avec un pianiste qui s'appelle Jérémy Ababou.
En duo. Et je crois qu'il y en a un qui a joué avec. Jonas,
oui, c'est moi. Pendant 2 ans, j'étais son saxophoniste. Ouais.
Ah ouais, quand même.
Oui, c'était ma plus belle expérience en termes de.
Parce que Jonas, c'est pas n'importe qui.
Absolument,
hein.
Absolument. Et encore aujourd'hui, et je l'ai recroisé sur une émission de télé où on a joué. On a rejoué ensemble 20 ans après, et c'était très très.
Mais c'est beau l'ego, finalement.
Mais non, mais c'est juste pour dire que oser monter comme ça dans une situation où on est exposé à ce point-là, sans ego, il faut un minimum se dire, je peux assurer ce rôle-là.
Oui, oui, bien sûr.
Il faut croire en soi.
Non, mais il ne faut pas que l'ego. Je me dis, faut avoir un minimum de distance quoi, pour pouvoir écouter les autres partenaires. Quoi, je veux dire,
mais
sinon,
c'est indispensable. Et quand on fait de la musique, moi je parle plus de ce que je connais, donc la musique et notamment le jazz. Si on est un tout petit peu honnête, on se sent toujours en insuffisance, parce qu'on entend toujours un musicien qui fait quelque chose, un style ou un type de, une maîtrise de son instrument mieux que nous, on trouve toujours des gens plus forts que nous, donc il y a la double cohabitation d'un minimum d'ego pour pouvoir continuer et d'une humilité qui est imposée par la musique elle-même, parce qu'on se sent mauvais, moi personnellement je me sens jamais à la hauteur.
Ouais.
Donc je pense que oui, vous avez raison, Evelyne. Faut toujours avoir ce pas de recul en disant là je sais bien faire ça, mais en fait je suis quand même insuffisant.
Ce qui est bien dans le collectif d'un groupe musical, on pourrait y avoir un saxophoniste noir, un indien. Un arabe,
il y a un peu ça. Hein.
Voilà.
Moi, je suis à moitié.
Et tous ces gens qui se disputent ou qui s'aiment, ça pourrait être une image de l'humanité, quoi, quelque part. Oui, parce que c'est une humanité qui arrive à résoudre ou à dépasser leurs conflits en musique.
Mais alors, vous avez tout à fait raison, mais dans un monde idéal, Evelyne, ça aurait été le cas. Mais là, il s'avère qu'on est assez similaire de d'origine, etc. Enfin, toi, t'es grec, je crois. Artigas, c'est grec d'origine, non ?
Pas du tout.
Non, je sais pas. Pour moi, ça sonnait grec. Comme...
C'est catalan.
Ah bon, alors,
voilà. Donc, je me disais ça,
pas du
catalan.
Tout. Oui. Voilà. Bon, non, mais vous savez, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, le vrai challenge, ça a été, comme le disait Jean-Baptiste, ça a été de trouver comédien suffisamment crédible en tant que comédien et suffisamment bon musicien. Et en fait, bah, il y en a pas tant que ça. C'est pas pour dire qu'on est exceptionnel ou quoi. C'est pas de l'ego là qui parle. C'est juste, c'est la metteur en scène Svetlana de Caron, on est. Hein.
Oui.
Svetlana de Caron qui a conduit les auditions avec l'auteur de la pièce Thierry Delair. Et moi, quand je suis arrivé, ces deux garçons étaient déjà, donc Renaud et Jean-Baptiste étaient déjà castés, comme on dit dans le métier. Et j'ai compris qu'ils avaient vraiment du mal, Renaud, je crois que tu m'avais dit, ouais, on a eu du mal à trouver quelqu'un qui.
Ouais, ouais, voilà, il a dit ça pour
me faire mettre en
confiance. Ton ego.
Pour flatter mon ego et me mettre en confiance. Mais donc, allez, en fait, dans un monde idéal, il y aurait un Indien, un Juif, un Arabe, un Noir, etc. Mais sauf que là, il fallait surtout.
Oh, bah là, c'était pas vraiment le.
C'était pas l'objet.
Il n'y avait pas d'ethnie particulière.
Voilà. Non, mais moi, j'ai remarqué qu'on retrouve dans des groupes des gens de diverses origines.
Mais ça, c'est
ça fonctionne très bien.
Mais ça, c'est l'avantage de l'art et de la collaboration dans l'art. On ne voit même plus des.
On construit.
Oui, c'est ça. Le genre
binaire, non binaire.
Après, c'est la musique qui rassemble.
Absolument, absolument.
Complètement. Ouais. Et c'est la musique qui est la plus importante. Le reste, on oublie quoi.
Oui, le jazz en particulier, qui est un langage universellement partagé par des musiciens à travers le monde qui peuvent pas du tout se comprendre par la langue qui parle, mais en parlant musique sans s'être jamais vu et rencontré, en un instant peuvent jouer. Des heures ensemble.
Exactement.
Ah ouais, c'est
ça. La particularité du jazz, ouais.
Là, je me permets d'intervenir. Le dernier concert que j'ai fait, j'ai joué avec un pianiste d'Azerbaïdjan, une chanteuse syrienne,
ouais.
Un contrebassiste d'origine italienne,
ouais.
Et un batteur du nord de la France.
Ch'ti.
Voilà, ch'ti.
Ouais.
Le
premier disque sur lequel j'ai joué quand j'avais 18 ans, c'était un disque de musicien sénégalais. Là, demain, je vais faire les 75 ans d'Israël avec un pianiste juif israélien,
ouais.
À la vôtre.
Moi, j'avais su, je ramenais le whisky. Hein,
jouer. Ah bah vous venez de trahir la blague, on avait fait une blague tout à l'heure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Evelyne, c'est que on ne voit même plus. C'est un spectre qu'on ne voit plus. On est aveugle de ça. On voit surtout les cultures musicales en fait.
Voilà. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse fumer à Radio Liberté.
Ah bah c'est la liberté, hein. Radio Liberté. Tiens, tu m'enroules.
Donc,
vous trouvez pas, excusez-moi,
oui.
Vous trouvez pas qu'elle nous fait penser un peu à Svetlana?
Oui.
Qui?
Sophie.
Ah, Sophie.
Oui. Je suis Svetlana.
Ah, mais oui. C'est
vrai. À notre metteuse en scène.
C'est vrai, en plus, c'est vrai.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on entende le final que j'ai enregistré hier soir.
Ah oui.
Et que vous m'indiquiez un standard de jazz que vous aimez particulièrement.
Différent de celui que. Oui. Là, c'en est un, pour l'occurrence.
Oui, mais.
On a le temps de la réflexion, ça va manquer de spontanéité cette réponse.
Ouais, c'est vrai.
Oui, alors.
Non, mais tu peux.
Un standard que c'est pas vous forcément qui le jouez, mais que Nicolas se fera un plaisir de chercher. Ah, voilà, un standard que vous aimez.
D'accord.
On voulait vous dire aussi une chose importante. Grab your coat and grab your hat. Leave your worries at the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pitter-pat of that happy tune? It's your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Come on, brother. Thank you.
Non, mais c'est vrai qu'il y en a deux sur les trois qui sont exceptionnels.
Eh ben, je suis bien d'accord avec toi.
Alors, qu'est-ce que vous avez choisi pour, comme standard que vous auriez envie d'entendre?
Tu veux commencer?
Maiden Voyage. Maiden Voyage. Pour rester dans le... Parce que c'est un personnage aussi important du spectacle qui est cité, un musicien extraordinaire, Herbie Hancock, pianiste vivant, très prolifique et actif, qui a révolutionné plusieurs fois aussi l'histoire de la musique.
C'est bon?
C'est bon, mais alors après, faudra qu'on bascule tout de suite.
Oui.
On a 7 minutes de Herbie Hancock.
Parce qu'il est... Non, mais on peut mettre un extrait, peut-être le thème.
Quelques 30 secondes, quoi. Quelques...
Ouais. Ah, il dure longtemps?
Oh, mais on va.
Il fait 8 minutes.
Ah ouais, tant que ça.
Ah ouais, moi j'ai déjà, les morceaux ils vont durer 20 minutes donc.
Ça nous a déçu par mon choix.
Circulez actuellement en direction de la Patte d'Oie d'Herblay. Attention au niveau du tunnel de Rocancourt. Ils étaient chiants pour ça sur FIP, à toujours te couper les morceaux que tu étais en train d'écouter.
C'est grâce à FIP que j'écoute du jazz depuis que je suis gamin, l'émission Jazz à FIP.
Alors, vous allez me dire jusqu'à quand ça se joue Et voilà, les projets autour du spectacle. Enfin, en tout cas, jusqu'à, parce qu'il y a encore quelques représentations.
Absolument. Oui, ça se joue jusqu'au samedi 24 juin. Donc, il nous reste 4 représentations. On joue donc à l'Essaillon à 21h15. Donc, samedi, ce soir. Et la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi à 21h15.
D'accord, très bien. Donc, c'est au théâtre Essaillon. Rue du Pierre-Rollard, je ne sais jamais.
C'est derrière Beaubourg, vous savez, c'est à Pompidou, c'est à côté du Café de la Gare.
C'est à Café de la Gare.
Ouais, voilà. Café de la Gare, quoi.
Voilà, 5 rue Pierre-Rollard. 6 rue Pierre-Rollard. C'est juste à côté du Café de la Gare, ouais, effectivement.
Et du Café Les Acrobates.
Voilà, on ne fait pas de publicité quand même.
Ah non, je ne fais pas de pub, mais non.
Voilà.
Et c'est donc, vrai qu'ils sont sympas, aux acrobates.
Oui, ouais.
Ouais, très sympa.
Donc, c'est un spectacle, franchement. Ça à voir pendant cette période un petit peu caniculaire, hein, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce que, en mer, il pleut.
Alors il pleut. C'est caniculaire et stormy d'ailleurs. Stormy,
oui,
stormy,
ouais. Ouais. Ah bah d'accord, il pleut. Il est en train de pleuvoir à Paris. Voilà. Et donc, c'est un spectacle chiffré dans la cave de l'Essaillon. C'est très agréable. Et puis, on a envie de danser aussi après le spectacle. Ouais. C'est
la première fois qu'on nous dit ça, mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle.
Bon à savoir.
C'est bon à savoir.
Voilà. Alors, je vous dis, comment on dit bonne chance, on dit.
Bonne merde, on dit.
Bonne merde.
Ah, voilà. Dans le théâtre, on dit ça, ouais.
C'est merde tout court.
Merde, non, c'est les Belges qui disent bonne merde.
Ah, ouais,
c'est
en Belge. Ouais. Merde.
Mais, si vous faites d'autres spectacles, vous pouvez écrire à Radio Libertaire ou
est-ce que j'ai d'autres
ou vous me prévenez, voilà, comme ça.
Ah bah merci.
Merci.
Ok, super.
Voilà. Eh bien merci, hein,
merci beaucoup
pour votre présence. Hein. J'espère que vous avez des bons parapluies.
Ah oui, là tu les envoies dehors.
Moi aussi j'ai une casquette, je vais courir.
Merci de l'accueil. Merci de l'accueil.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. Allez, les musiciens cherchent la note bleue, nous on cherche la note blanche, Jean-Marie.
Extraordinaire. C'est pas bête. Ah, il y avait un banquet où tout le monde essayait, sur un bout, sur l'autre bout, de faire tenir un œuf debout. Un nommé Christophe Colomb, qui s'y connaissait en billes, d'un coup sec sur la coquille, réussit l'opération. Et tout le monde de s'écrier « Caramba ! Il a trouvé !» C'est pas bête, c'est pas bête, il suffisait d'y penser. C'est pas bête, c'est pas bête, et simple à réaliser. C'est pas bête, c'est pas bête, merci d'avoir eu l'idée. Et pour qu'elle soit complète, faut pouvoir recommencer. Allez, 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 allez. Il y avait un gros malin, toujours plus ou moins dans le bain. Archimède, un savant, qui se savonnait souvent. Un jour, plongeant jusqu'au bide son gros corps dans un liquide, en même temps, il découvrit son principe et son nombril. Et tout le monde de s'écrier « Eureka ! Il a trouvé ! Mais c'est pas bête, c'est pas bête, il suffisait d'y penser. C'est pas bête, et simple à réaliser. C'est pas bête, merci d'avoir eu l'idée. Et pour qu'elle soit complète, faut pouvoir recommencer. Allez, 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 allez ! Ouh ! Capulet, Montaigu, se battait à coups de bottes dans le train.
Quel train ?
Mais je sais que ça rime pas, bien sûr. Mais vous savez, on peut pas empêcher les gens de se battre où ils veulent. D'autant plus que Roméo, lui, s'en moquait. C'est Juliette qu'il aimait. Dans le feu de la passion et l'obscurité intime, il cherchait des mots sublimes pour lui dire son émotion. Elle, soudain, de s'écrier « Aïe, maman, il a trouvé !» C'est pas bête, c'est pas bête, il suffisait d'y penser. C'est pas bête, c'est pas bête, et simple à réaliser. C'est pas bête, c'est pas bête, merci d'avoir eu l'idée. Et pour qu'elle soit complète, faut pouvoir recommencer. Allez, 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 allez. C'est pas bête, c'est pas bête, rien au fond n'est compliqué. C'est comme cette chansonnette, il suffisait d'y penser. C'est pas bête, c'est pas bête, maintenant qu'on a eu l'idée. Pour que la fête soit complète, on va tous recommencer. Allez, 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 6, 4, 25. C'est pas bête, c'est pas bête, la 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 la. C'est pas bête, c'est pas bête, la 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 la. C'est pas bête, c'est pas bête, la 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 la. Maintenant que la fête est complète, il reste plus qu'à s'en aller. Allez, 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 dehors, allez, on s'y va, on se tire. Allez, au revoir public de mon cœur. C'est tout, c'est fini, merci. C'était de Francis Blanche, évidemment. Ciao.
Et dans 20 minutes sur l'antenne de Radio Libertaire, ça sera Bulle Noire, magazine du Polar, et dans l'immédiat, chronique théâtre et choix de texte.
Oui, bonjour. Eh bien, on va rester au théâtre Essayon, où j'ai vu une pièce qui s'appelle « Derrière le miroir » de Valérie Mastrangelo. Alors, c'est un petit peu 6 personnages en quête d'auteur, plus le 8,5 de Fellini. Donc, c'est raconte l'histoire d'un auteur qui commence à ne plus avoir tellement d'idées pour finir son roman, surtout. Donc, il convoque ses personnages, des personnages de cirque, et il leur propose un challenge, enfin plutôt un chantage. Ça serait bien qu'il y en ait un qui disparaisse, mais il ne veut pas le choisir. Il veut que ce soit les 3 autres qui choisissent la victime, on va dire. Donc, ça ne va pas être très simple pour tous ces personnages qui sont aussi les employés de maison de ce monsieur. Donc on navigue un peu entre le réel et l'imaginaire. C'est très bien fait, c'est donc mis en scène par l'auteur Valérie Mastrangelo, et ça se joue à l'Essayon à 21h15 les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 29 juillet. Alors donc voilà pour la partie théâtre. Et aussi toujours pour la partie théâtre, j'ai vu une très belle exposition sur Sarah Bernhardt, qui nous a quittés il y a 100 ans. Et donc, c'est une exposition au musée du Petit Palais, avenue Winston Churchill. Et c'est, y a un peu de tout. Y a tous les de sa naissance jusqu'à la fin, bien sûr. Tous ses rôles. Il y a des accessoires de théâtre qu'elle a portés. Il y a beaucoup de photos. Parce que naturellement, comme l'exposition le dit, c'est Sarah Bernhardt, la comédienne qui créa, ou plutôt non, et la femme créa la star. C'est vrai qu'elle a créé le star system, et c'est Cocteau, je crois qu'il l'appelait le monstre sacré. Et Victor Hugo, la voix d'or. Donc moi, je vous conseille d'aller voir, c'est jusqu'au 27 août, cette exposition sur Sarah Bernhardt. Et la femme créée à la star, ça vaut vraiment le coup, c'est très intéressant.
C'est où ?
C'est au musée du Petit Palais, avenue Winston Churchill.
Ah d'accord, c'est en face du Grand Palais.
Voilà, voilà, voilà. Et puis ben, j'en ai terminé pour ma rubrique théâtre.
Ah oui, alors au Théâtre Essayon, il y a en ce moment Macbeth, joué par Philippe Nicot, qui était déjà venu ici, Philippe Nicot, pour une pièce, genre de remake de... l'histoire entre Gabin et Michel Morgan, là, je ne sais plus.
Gai des Brumes.
Gai des Brumes, voilà. Il était venu ici. Et donc, il joue un personnage assez inquiétant, qui est Macbeth. Donc, c'est après Shakespeare. Et c'est un seul en scène, mais il est époustouflant. Voilà, vraiment une présence théâtrale incroyable. Il joue les 3 sorcières, il joue Lady Macbeth, il joue Macbeth, et il chante aussi. Alors, c'est un côté rock, etc., mais il a une très belle voix, et c'est super. Donc, il viendra la semaine prochaine pour une courte intervention de 15 minutes, parce qu'après, il fait une représentation à 19h au théâtre Essayon. Et la semaine prochaine, j'en profite pour dire qu'il y aura Dominique Artero qui présente un disque qui vient de sortir. Et une psychologue, clinicienne, romancière, qui vient d'écrire son premier ouvrage. Elle s'appelle Caroline Roucoulès. Et notre amie Anne Delade. Voilà.
Merci.
Ben, petit extrait du spectacle Macbeth avec Philippe Nicot.
Et c'est jusqu'au 24 juin. Donc il vient pour la dernière, il viendra dans le studio pour la dernière, mais parce que ça se joue à Avignon, voilà, okay. Après. Sophie ?
Oui, ben, du coup, moi j'ai amené mathématiques. Cette fois-là, ce sera super gay. C'est autour des livres qui m'ont émue aux larmes, au point de me faire pleurer. Le premier extrait que j'ai choisi, j'avais 9 ans, peut-être 10, et en été, j'avais dévoré des livres, dans le sens lu, hein, bien sûr. J'avais lu, entre autres, Le Lion, de Joseph Kessel, paru chez Gallimard en 58, et qui raconte l'histoire de Patricia, qui est une petite fille de 10 ans, et de l'amour qui la lie à un fauve, qui s'appelle King. L'histoire se passe au Kenya, dans un parc national. Et c'est une surprise pour personne, je pense, mais King meurt à la fin de l'histoire. Et ça a été ma première larme en lisant un livre, et je me suis dit que c'est incroyable de pleurer en lisant des mots. Donc la première scène que j'ai choisie n'est pas la mort, hein, mais c'est la scène de la rencontre entre l'homme qui raconte l'histoire et Patricia. J'entendis alors ces mots en anglais. Vous ne devez pas aller plus loin. Deux ou trois pas me séparaient, au plus de la silhouette fragile que je découvris dans l'ombre d'un épineux géant. Elle ne cherchait pas à se cacher, mais comme elle était parfaitement immobile et portait une salopette d'un gris éteint, elle semblait faire partie du tronc auquel elle s'appuyait. J'avais en face de moi un enfant d'une dizaine d'années, tête nue. Une frange de cheveux noirs et coupée en boule couvrait le front. Le visage était rond, très hâlé, très lisse. Le cou, long et tendre. De grands yeux bruns, qui semblaient ne pas me voir, étaient fixés sans ciller sur les bêtes. À cause d'eux, j'éprouvais le sentiment très gênant de me voir surpris par un enfant à être plus enfant que lui. Je demandais à voix basse « On ne peut pas aller là-bas ? C'est défendu ?» La tête coiffée en boule confirma d'un signe bref, mais son regard demeurait attaché au mouvement des bêtes. Je demandais encore « C'est sûr. Qui peut le savoir mieux que moi ? Dit l'enfant. Mon père est l'administrateur de ce parc royal. Je comprends tout, dis-je. Et il a chargé son fils de la surveillance. Les grands yeux bruns me regardèrent enfin. Pour la première fois, la petite figure hâlée prit une expression en harmonie avec son âge. Vous vous trompez, je ne suis pas un garçon, dit l'enfant en salopette grise. Je suis une fille et je m'appelle Patricia. J'enchaîne sur le deuxième extrait. Deuxième extrait, donc il y a Patricia évidemment. Il y a Bulit. Bulit, c'est le père de Patricia, qui est le directeur de la réserve. Et il y a Kioro, qui est un guerrier mutilé, qui surveille Patricia tout le long du livre, parce qu'elle va dans la brousse et approche les animaux sauvages à son insu et à la demande de son père. Donc à la fin, donc ce Kiro sera tué par King et King sera abattu par le père de Patricia. Et donc au moment de cet extrait, le lion vient d'être tué. Elle se détourna de Bulit et de Kiro comme d'ombre sans substance et se pencha sur King, le seul ami pur, le seul qui, en sa tendresse, en sa puissance, ne l'avait jamais meurtri, jamais trompé. Il ne pouvait pas être devenu d'un seul coup et sous ses propres yeux, sourd, aveugle, sans mouvement et sans voix. Il n'avait pas le droit de s'obstiner dans une insensibilité, une indifférence monstrueuse alors qu'elle souffrait à cause de lui, comme elle n'avait jamais su qu'on fût capable de souffrir. Patricia agrippa furieusement, sauvagement, la crinière de King pour le secouer, le forcer à gronder ou à rire. La tête du lion ne bougea pas, la gueule resta béante, mais inerte. Le regard était de verre. Seul, l'essaim des grosses mouches s'éleva, tourbillonnant et bruissant au-dessus de la plaie déjà sombre. Pour la première fois, je vis la peur saisir les traits de Patricia. La peur de ce qui ne se conçoit pas, de ce qui ne peut pas être. Patricia lâcha la toison et d'instinct leva le visage vers le ciel, le soleil, de grandes formes noires aux ailes déployées et à la tête chauve tournoyée au-dessus de l'arbre de King. Un cri ténu mais atroce par la révélation qu'il exprimait échappa à Patricia. Il n'existait pas d'écriture aussi lisible pour la petite fille du parc royal que les cercles tracés par un vol de vautours. S'il se rassemblait de la sorte, c'était pour fondre sur une bête crevée, elle le savait depuis toujours. Et Patricia avait tant vu de ses chairs mortes, antilopes, buffles, zèbres, éléphants, que rien jusqu'alors ne lui avait semblé plus simple, plus naturel, plus conforme à l'ordre de la brousse, un cadavre, une charogne. Voilà tout. Voilà. Alors, le troisième extrait est tiré d'un livre dont j'avais déjà lu les extraits précédemment et qui s'intitule « La cicatrice ». Ce livre a été écrit en français par un auteur américain qui s'appelle Bruce Lowry en 60. Et c'est l'histoire de Jeff, 13 ans, qui est moqué et harcelé par ses camarades d'école. Jeff est défiguré par un bec de lièvre. Et il a un petit frère, Bubby, qui va mourir à la fin du livre, décidément. Et au fil de l'histoire, Jeff se perd de mensonge en mensonge et s'enferme. Et la première scène que j'ai choisie donc décrit l'amour qui le lie à son petit frère. Je ne dirai pas le passage qui décrit la mort de Bubby, hein, ça suffit de me laisser pour aujourd'hui. Mais quand j'ai lu ces lignes, je me souviens d'avoir autant, tellement pleuré que je ne pouvais plus lire. J'étais aveuglée par mes larmes. Et le pouvoir des mots écrits, je le trouve juste extraordinaire, c'était histoire de dire tout ça. Et donc on entend parler de Miss Martel dans cet extrait, c'est l'institutrice, et Willy, qui est un camarade de classe. Donc c'est le petit garçon, c'est Jeff qui parle. Étais-je d'une nature à souffrir quoi qu'il arrivât ? Étais-je un enfant anxieux et tourmenté outre mesure ? Je ne le crois pas. La voix enrouée, tout ce temps de Miss Martel se fit entendre. « Allons, allons, taisez-vous ! Vous êtes très mal élevé, mais taisez-vous ! Vous n'êtes vraiment pas gentil !» Les rires diminuèrent enfin, plus par lassitude que par pure obéissance. Heureuse dispense pour ceux qui la reçoivent, même la cruauté se lasse. Sur la quarantaine d'élèves que contenait la salle, il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas ri, dont une fille légèrement bossue et aussi Willy. J'avais à peine remarqué, parmi ceux qui évitaient de faire chorus, un certain garçon blond, long et mince, avec des grandes oreilles décollées. C'était Willy. Sur le moment, je lui avais prêté peu d'attention, mais depuis, à force de mémoire, j'ai réussi à retrouver son image de ce jour-là. À la sortie de l'école, je reconnus Bubi à son petit bonnet de cuir marron doublé de fourrure. Il n'avait pourtant pas eu de classe cet après-midi. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'attendais? Tu n'es pas revenu spécialement pour me chercher ?» Il levait les yeux vers moi, guettant dans les miens quelque indication de l'expression à prendre, de la réponse que je désirais entendre. Ses mains, entraînées presque par le poids de mes moufles trop grosses qui lui avaient été léguées, cherchaient à s'exprimer. « Oui ?» dit-il enfin. Risquant une punition sévère de ses parents, qui ne lui permettaient pas de s'éloigner de la maison, il avait su retrouver son chemin jusqu'à l'école pour me raccompagner, seulement pour me voir. Il est de tels moments où les êtres n'ont pas besoin de paroles. Et Bubi eût été bien incapable de les trouver. Nous rentrâmes donc, côte à côte, dans la neige. Pas un mot ne fut prononcé, mais de temps en temps, il me souriait, cherchait dans mes yeux je ne sais quelle approbation, quelle sympathie. Pour moi, ce regard compensait toutes les moqueries de la classe. Mieux que cela, les rachetait, les effaçait. Ce moment où nos pas s'étouffaient dans la neige, où le crépuscule prématuré de décembre atténuait déjà l'aveuglante blancheur du paysage, ce moment demeure pour moi le symbole de ce qu'aurait pu devenir notre affection. Nous étions convenus, Bubi et moi, pour le couvrir, de dire à nos parents que je l'avais trouvé non loin de la maison. Juste avant d'ouvrir la porte d'entrée, il leva ses deux moufles énormes et répéta encore « Elles étaient à toi, tu sais, ces moufles. » Voilà.
Merci.
Radio Libertaire 89,4 MHz de Soutzen va se terminer pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, donc oui, comme tu l'as dit Evelyne, avec...
Avec Dominique Artero, Macbeth par Philippe Nico et Caroline Roucoules pour un roman, Le Ruban, et Anne Delalleu pour sa chronique théâtrale.
Les avant-goûts d'Avignon.
Voilà.
Sophie, le prochain rendez-vous
Sophie. Je ne sais pas encore, je pars en vacances, je ne rentre pas avant le 10 juillet, donc je vous tiendrai au courant.
A-t-elle le droit de partir en vacances?
Oui, oui, j'en ai besoin.
Bon. Au revoir.
Et dans l'immédiat, sur Radio Libertaire, c'est l'heure de Bulle Noire, t'as bien capté quand même.
T'as bien capté, bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté, bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby,
faut pas tromper, les flingues vont sortir. tire les holsters.
Bien capté, bulle noire, sur libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar, sur libertaire,
Radio Libertaire. On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Radio Libertaire sur 89.4.
Bulle noire avec Jean-Paul Deswatten. Il m'a fait répéter avant le début de l'émission. Salut Jean-Paul. Tu nous livres la suite des aventures de William Beaucroissant avec la suite Mordovac après Edir.
Qu'on ne se doutait de rien.
Qu'on se doutait de rien.
Bonsoir Stéphane. Effectivement, elle est arrivée la suite Mordovac, que j'annonçais à la fin du premier volume.
Alors, une publication L'Harmattan, parce que tu es fidèle à l'éditeur.
Fidèle à L'Harmattan.
Fidèle à L'Harmattan. Une chose m'intrigue toujours quand même, et c'est une question que je ne t'ai pas posée la fois dernière, c'est comment on passe, le Jean-Paul Deswatten, scénariste qui fait des scénarios, entre autres... Un des grands scénarios que tu as réalisé, c'est pour Tardi et sous le nom de Picaré. L'univers de Polonius est très très éloigné de ce que tu as pu écrire en littérature, de même que ce que les scénarios que tu as pu faire pour Gall ou les autres, c'est très éloigné. Et dire qu'on ne se doutait pas que Jean-Paul Deswatten ne faisait pas que du scénario noir.
Alors effectivement, c'est une question qu'on m'a posé, qui est venu à l'esprit de pas mal de gens, après avoir lu des histoires funèbres, lugubres, tristes, désespérées, je suis passé à tout à fait autre chose. Je suis passé à, on va dire, à la comédie, parce que les amis dessinateurs que j'ai pu connaître ont certes dessiné des univers très glauques, des personnages effrayants et des situations désespérées, mais c'était des gens extrêmement drôles. Hein, je me demande si je l'ai pas évoqué la dernière fois. Nicolet, c'est le plus marrant de tous les mecs que j'ai pu rencontrer. Tardi a beaucoup d'humour, Barré aussi, Gall était un marrant. Et voilà, je suis passé je dirais à un registre qui me correspond davantage, parce que je suis très blagueur et très très plaisantin. J'adore faire des farces, et ça c'en est une. Alors une farce, dans mon esprit, c'est un petit peu comme si je disais à un copain, je lui dis, tiens, j'ai une bonne blague à te raconter, mais elle va durer 4 ou 5 heures, elle est longue, hein. Elle s'appelle Et dire qu'on ne se doutait de rien. Voilà, c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit ces deux romans. Et il y a moyen, quand on s'attaque aux critiques de la société, quand on dépeint des personnalités... on va dire antipathique ou caractéristique.